Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Benoît XVI a envoyé une lettre au président Václav Klaus suite au décès de Václav Havel. Prague se prépare aux obsèques de l'ancien président en présence d'une quinzaine de chefs d'État. La République tchèque aussi est touchée par l'affaire des prothèses mammaires défectueuses. Benoît XVI a envoyé une lettre au président Václav Klaus suite au décès de Václav Havel. La lettre du pape sera lue vendredi midi en ouverture de la cérémonie des funérailles qui se tiendra dans la cathédrale Saint-Guy au château de Prague. Par ailleurs, deux représentants du Vatican, l'ancien ambassadeur à Prague, annonce apostolique Giovanni Coppa, et l'ambassadeur actuel Giuseppe Lanza, célébreront la messe avec l'archevêque de Prague, Dominik Duka, et les autres représentants tchèques de l'Église. L'information a été communiquée ce jeudi par l'archevêché de Prague. Une cinquantaine de délégations étrangères et une quinzaine de chefs d'État sont attendus vendredi à Prague pour les funérailles d'État de Václav Havel. Au total, près d'un millier de personnes, dont également les amis et collaborateurs de Václav Havel, participeront à la messe de Requiem célébrée à la cathédrale Saint-Guy. Les présidents français, allemands, autrichiens, hongrois, slovènes et slovaques, ainsi que les chefs d'État des pays baltes, le premier ministre slovaque Iveta Radičová et l'ancien président polonais Lech Walesa ont confirmé leur présence. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, accompagnée de son mari et de Madeleine Albright, assisteront également aux obsèques, tout comme le premier ministre britannique David Cameron. La chancelière allemande Angela Merkel, quant à elle, ne fera probablement pas le déplacement. Environ 900 policiers seront mobilisés. Le public pourra suivre les obsèques sur des écrans géants situés dans la deuxième cour du château et sur la place Hradčanské náměstí. Václav Havel sera probablement inhumé dans le tombeau familial situé dans le cimetière de Prague Vinohrady. Ce jeudi, deuxième jour du deuil national qui durera jusqu'à vendredi, les Tchèques continuent à affluer dans la salle Vladislav du château de Prague où est exposé le cercueil de Václav Havel. La salle Vladislav fut le théâtre de la première élection de Václav Havel à la magistrature suprême le 29 décembre 1989. Le public peut rendre hommage à l'ancien président ce jeudi jusqu'à 23h. À travers le pays, les drapeaux sont en berne depuis mercredi. Vendredi sera jour de deuil aussi en Slovaquie, dont Havel a également été le président avant la partition de la Tchécoslovaquie. Et puis vendredi à midi, lors des obsèques, une minute de silence sera respectée dans tout le pays. Ce jeudi, un acte de piété en hommage à l'ex-président Havel a été organisé sur le sol de l'université Charles de Prague. L'ancien porte-parole de la charte 77, recteur émérite de l'université Charles Radim Palouch, le frère de Václav Havel Ivan, l'ancien chancelier de la présidence de la République Ivo Matej ou encore le philosophe Jan Sokol ont participé à ce rassemblement. Le monde après Václav Havel ne sera pas un monde sans Václav Havel, a déclaré à cette occasion le recteur de l'université. Université Charles Václav Hampl. La République tchèque figure parmi les plus de 65 pays dans le monde dans lesquels les prothèses mammaires fabriquées par la société française Polyimplant Prothèses, actuellement au cœur d'un vaste scandale en France, ont été exportées. Selon les dernières informations, il y aurait dans le monde 300 000 porteuses de ces implants défectueux qui pourraient entraîner l'apparition de cancers. Toutefois, selon les autorités tchèques, leur vente avait été interdite en avril 2010 pour des raisons sanitaires. Pour l'heure, aucune femme tchèque portant une prothèse défectueuse ne souffre d'aucune maladie. Comme cela a été attendu, Petra Kvitová a été élue sportive tchèque de l'année 2011, hommes et femmes confondus, mercredi soir à Prague. Vainqueur notamment de Wimbledon, du Masters et de la Fed Cup avec la République tchèque, Petra Kvitová, 21 ans, est numéro 2 mondial et la première joueuse de tennis à remporter la prestigieuse enquête organisée depuis 43 ans par le club des journalistes sportifs du pays. Elle succède au palmarès à la patineuse de vitesse Martina Sablíková, vainqueur des deux dernières éditions et troisième cette année. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Vlasta, selon le calendrier local, le temps sera couvert sur la majeure partie du territoire avec des averses et de faibles chutes de neige. Les températures seront comprises entre 1 et 5 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková, la suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Une actualité qui reste bien entendu dominée par le deuil national, alors que se tiendront ce vendredi les funérailles de Václav Havel, des funérailles auxquelles nous consacrerons de nouveau une émission spéciale. Ce sera donc pour ce vendredi. Mais avant cela, pour aujourd'hui, place à deux autres thèmes. Une délégation de médias tunisiens était de passage à la radio tchèque la semaine dernière. Ils s'intéressaient à la question de savoir comment les médias tchèques ont réussi la transition démocratique, après la révolution et la chute du régime communiste. Nous entendrons quelques participants et puis malgré l'actualité de ces derniers jours, les fêtes de Noël approchent malgré tout. Nous en parlerons dans la deuxième partie de ces faits événements. Nous vous souhaitons donc une excellente écoute à toutes et à tous. Comment les médias tchèques ont-ils réussi la transition démocratique après la révolution en 1989 et la chute d'un régime communiste qui a contrôlé presse, radio et télévision pendant plus de 40 ans? C'est la question que se posent actuellement les dirigeants des médias en Tunisie, invités par le Deutsche Welle. Une délégation composée d'une quinzaine de responsables était en visite à la radio tchèque la semaine dernière. À la fin de la journée, au cours de laquelle a notamment témoigné l'actuel directeur de la radio tchèque, Petr Duhan, qui était le directeur de la radio tchécoslovaque au début des années 1990, le directeur des relations internationales de la télévision tunisienne, Mohamed Habib Ben Saïd, en a dit plus au micro de Radio Prague sur les objectifs de cette visite à la radio tchèque et à Prague.
Bon, nous sommes venus ici à Prague dans le cadre d'un programme général invité par nos amis de la Deutsche Welle. Donc c'est la continuation d'un programme qui va dans le sens d'un accompagnement pour le secteur public et pour le secteur privé. Moi, je représente la télévision tunisienne qui est un secteur public. On est maintenant en train de réussir notre migration d'une télévision d'État, d'une télévision de propagande, vers une télévision purement et véritablement du service public. C'est dans ce cadre-là, dans le cadre du perfectionnement du management, donc on est en train de voir de près les standards internationaux pour pouvoir piloter dans les semaines et les mois à venir un travail de fond pour que la télévision tunisienne soit véritablement une télévision de service public. Donc, nous avons vu l'expérience des Allemands de l'Est et nous avons ici à Prague vécu l'expérience tchèque. C'est dans ce cadre-là qu'on va s'inspirer, nous, en Tunisie, de l'expérience de nos amis Allemands de l'Est et de nos amis tchèques pour pouvoir réussir cette transition, cette reconversion d'une télévision d'État, d'une télévision de propagande à une télévision au service du citoyen, une télévision, un service public transparent, une télévision indépendante où elle est simplement au service du citoyen tunisien.
Assistant du directeur de la télévision tunisienne, Yalel Lagdar a ajouté un certain nombre de précisions sur quelques-uns des principaux enseignements de cette visite dans les locaux de la radio tchèque.
Nous sommes très intéressés par le mode de gestion de votre radio. Nous avons écouté avec intérêt l'explication de M. le directeur lorsqu'il a indiqué que lui-même, le conseil audiovisuel, le conseil des programmes, ils sont élus par votre diète, le Parlement, et qu'à travers le Parlement, donc, il y a la présence des partis politiques, il y a la présence de la société civile, et qu'ils sont élus tous, et qu'ils n'ont pas de droit de regard, ils ne contrôlent pas le programme, et qu'il y a un conseil de la rédaction où les journalistes, ils sont indépendants, ils sont neutres, ils sont loin de toute influence, de toutes les forces politiques pour pouvoir réellement exercer la neutralité et l'indépendance du secteur public médiatique. Donc nous avons suivi avec intérêt ce point-là. Et à la lumière de la révolution tunisienne, nous avons d'abord organisé des élections dans notre pays. Nous avons maintenant un Conseil national constitutionnel qui est en train de rédiger la Constitution. Il y a l'introduction d'un gouvernement de transition avec l'élection d'un président, d'un chef de gouvernement, d'un président de l'Assemblée nationale constituante. Tout ça, donc, met en évidence le commencement ou le début d'un processus démocratique pour la Tunisie. Le service public est appelé à jouer un rôle énormément important. D'abord, il faut préserver et consolider la redevance pour protéger ce secteur public de toute influence. Il faut que l'État elle-même comprenne que peut-être chez vous, l'État ne contribue pas à votre budget, mais chez nous, en Tunisie, nous avons besoin d'une contribution, ce qu'on appelle contribution complémentaire pour qu'on puisse remplir notre mission. Et puis, nous avons besoin aussi de l'apport de la publicité. Autrement, il faudrait que la télévision tunisienne ait un statut particulier qui défend ses droits et sa mission. Donc, notre visite nous a donné cette opportunité de connaître et d'apprécier votre modèle et votre expérience. Vous savez, avant la révolution, il y avait la télévision de propagande, la télévision sous l'influence du Parti unique, sous l'influence de l'ancien régime. Il y a des gens qui ont collaboré avec ce régime. Donc, après la révolution, il faut penser comment corriger ou réformer ou redresser cette situation sans créer vraiment un climat de tension qui peut se répercuter négativement sur le pays et sur cet espace du service public. Tout ça, donc, nous avons à l'œil pour essayer, avec le moindre dégât, avec le moindre problème, à la fois assurer une rupture avec la période ancienne, mais s'inscrire dans une nouvelle démarche qui répond aux critères internationaux et aux standards internationaux du service public, compter fondamentalement sur nos propres moyens, sur nos ressources humaines, mais aussi compter sur nos partenaires, notamment au niveau européen, c'est des démocraties traditionnelles. Cette visite, vraiment, elle est instructive, elle a été très utile et nous allons rentrer en Tunisie avec beaucoup de choses que nous avons apprises et nous sommes conscients et nous sommes optimistes que effectivement nous avons beaucoup de possibilités pour renforcer la coopération entre les deux parties et que bien sûr il nous attend un long chemin mais qu'il faudrait l'entamer à petits pas pour réaliser nos objectifs, à savoir voir la télévision tunisienne s'inscrire dans le service public et essayer de gagner la crédibilité, la confiance et être neutre et indépendant de toutes les forces politiques et à égale distance de tout le monde.
C'est un spectacle peu banal et assez sanglant auquel on peut assister dans les villes et villages tchèques pendant la semaine de Noël. Partout, d'énormes bassines et des marchands qui vendent seulement et rien que des carpes, les tuent et les vident sur place ou les vendent vivantes à emporter. La carpe, poisson d'eau douce, est le plat traditionnel de Noël de ce pays sans mer qu'est la République tchèque et les carpes sont pêchées dès le mois de novembre dans des étangs dont on vide l'eau. Un reportage signé Alexis Rosenzweig.
Tous les mois de décembre, dans les rues de Prague, à côté des traditionnels marchés et sapins de Noël, ce sont les carpes qui tiennent la vedette. Des dizaines de milliers de carpes vendues en quelques jours pour finir dans les assiettes le soir du réveillon, accompagnées d'une salade de pommes de terre comme le veut la tradition locale. C'est notamment dans la région de Trzeboń, dans le sud de la Bohême, que les carpes sont pêchées tout au long du mois de novembre dans les nombreux étangs qui sont vidés de leur eau. Un rituel très physique, comme l'explique Peter Sedláček. Il est le directeur technique en charge ce matin-là d'un étang de 400 hectares où des milliers de carpes sont récupérées.
La síť, přestože se nezdá, tak má obrovskou kapacitu až 1000 metráků, 100 tun.
Le filet que vous voyez, on ne dirait pas, mais il peut contenir jusqu'à 100 tonnes de poissons. C'est assez énorme. On arrive avec un système de répartition des tâches entre tous les hommes présents à regrouper le maximum de poissons dans la seule partie où il reste encore de l'eau, un périmètre limité grâce à ce filet.
Dans le brouillard matinal, ils sont plusieurs dizaines d'hommes à coordonner leurs efforts. La technique a évolué. Mais la tradition est ancienne, elle remonte au Moyen-Âge. Václav Rameš dirige les archives locales.
Dans les archives de Trzeboń, il y a des documents qui montrent que les poissons étaient exportés jusqu'au Vatican. C'est assez unique. Il y avait un grand intérêt pour ces poissons parce qu'ils étaient grands, ils étaient savoureux et charnus. Et encore aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est un poisson bien gros.
Ce poisson bien gros de la région de Třeboň, il arrive à Prague où il est entreposé dans des bassines remplies à ras-bord, gardées la nuit par des veilleurs. Il n'est pas rare de voir des carpes sauter et atterrir sur le trottoir avec l'énergie du désespoir pour échapper au sort cruel qui les attend. Tablier, gourdin, couteau, sans oublier la bouteille de schnapps pour lutter contre le froid à force d'avoir les mains dans l'eau, le vendeur de carpes est un personnage incontournable pendant la période des fêtes, âme sensible s'abstenir.
Oula, j'ai failli me taper sur les doigts, madame. Un, deux, et voilà, et maintenant, on plante le couteau, je vous l'apaise. Tiens, je l'apaise avec le couteau, comme ça, vous me payez, même le couteau.
Environ 3 euros le kilo, 2 euros de plus si on laisse au marchand le soin d'achever le poisson. Mais certains préfèrent l'acheter encore vivant pour la fraîcheur du produit. Et pour tous ceux qui achètent leurs carpes encore vivantes, il s'agit de ne pas traîner en route pour les replonger le plus vite possible dans l'eau, de préférence dans la baignoire où elles resteront pendant 48 heures.
Après, on va les saler et on les laisse reposer. Celle-là, on va la cuisiner au noir, c'est-à-dire aux prunes et au vin, et je vais la préparer dès maintenant. Et puis la deuxième, on va en prendre les filets demain, le jour du réveillon. Et puis, avec les têtes et les entrailles, on fait une très bonne soupe.
Mais même si la carpe reste le poisson traditionnel tchèque, la jeune génération préfère de plus en plus des produits moins locaux, comme le saumon par exemple.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite consacrée, comme tous les 15 jours, aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Et aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une personnalité tchèque, mais de tout un groupe de gens sur lesquels la réalisatrice française Ruth Zilberman a tourné un documentaire. Son titre est suffisamment éloquent, « Dissident, les artisans de la liberté ». Le film évoque, à travers des images d'époque et des témoignages recueillis 20 ans après la chute du mur de Berlin, le mouvement d'opposition contre le régime communiste dans trois pays, à savoir en Tchécoslovaquie, en Pologne et en Hongrie. Même s'il n'apparaît pas dans le film, puisqu'il n'était pas disponible au moment du tournage à Prague, l'ancien président et figure majeure de la dissidence tchécoslovaque, Václav Havel, y est quand même bien présent. L'émission vous est proposée par Magdalena Rozinková.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Quelques mois avant la chute du mur de Berlin, une clairière au fond des bois, à la frontière de la Pologne et de la Tchécoslovaquie. Une rencontre clandestine qui rassemble des opposants tchécoslovaques et polonais en lutte contre les régimes communistes au pouvoir dans leur pays. Ils se retrouvent, malgré les frontières étroitement surveillées, malgré les polices secrètes qui veillent. Ces conspirateurs de la démocratie, on les appelait dissidents.
C'est par les images tournées et par une photo prise lors de cette rencontre clandestine dans les monts des géants en tchèque Krkonoše que commence le documentaire de Ruth Zilberman intitulé « Dissidents, les artisans de la liberté ».
Ce film, ça fait très longtemps que je veux le faire et ça fait plusieurs années parce que c'est pas facile d'imposer à la télévision française de parler de l'Europe centrale. Donc j'ai essayé de le faire pendant longtemps et au départ, je voulais évoquer cette histoire de la dissidence, mais je connaissais pas encore l'existence de la photo. Ensuite, j'ai lu un article d'Adam Michnik qui parlait du départ de Václav Havel de la présidence de la République, et son article était illustré par cette photo, et bien entendu, ça s'est imposé à moi comme une évidence. Il faut faire le film à partir de cette photo.
Et donc ça, c'était bien avant même la mise en production du film. Donc la photo était là dès le départ. Et pendant les repérages, Anna Shabatova m'a montré un film vidéo qui avait été tourné par le Vidéojournal de cette rencontre. Et bien entendu, voilà, ça c'était quelque chose de merveilleux pour moi, de me dire que cette photo pouvait être relayée par ce film d'archives en couleur, extrêmement émouvant. Et donc, oui, j'ai tourné le film en ayant à l'esprit que d'une part la photo, cette photo noir et blanc, et d'autre part ce film en couleur, des couleurs un petit peu baveuses comme on en tournait dans la vidéo comme ça des années 80, allait être bien entendu le fil rouge du film. C'était un a priori de construction en somme.
Comment avez-vous en fait choisi vos interlocuteurs dans les trois pays ?
D'une part, il y a des gens qui sont présents sur la photo. Et ensuite, je savais qu'il y avait des personnes qui étaient présentes sur la photo, comme Jacek Couronne qui est mort, etc., que je les évoquerais uniquement en archives. Et j'ai aussi choisi, il y a par exemple, dans le film, on évoque la Hongrie, il n'y a pas de Hongrois sur la photo. Mais pour moi, la photo était un symbole, c'est-à-dire que bien entendu, je voulais qu'il y ait des gens de la photo, mais je savais que j'aurais besoin de personnes qui n'y figuraient pas, mais qui étaient symboliquement là, finalement, pour tenter malgré tout d'évoquer, sans pouvoir parvenir à l'exhaustivité bien entendu, mais malgré tout je voulais quelque chose d'assez représentatif de ce qu'avait pu être la dissidence dans ces trois pays. Donc il y a par exemple deux Hongrois, Laszlo Rajk et Miklós Jarasztyi, qui ne figurent pas sur cette photo. Il y a Karol Modzelewski, qui est un Polonais, qui était avec Jacek Couronne, une des personnalités fondatrices de l'opposition polonaise, qui n'est pas sur la photo, mais je savais d'emblée, bien entendu, qui figurerait dans le film.
Dans le film apparaît côté tchécoslovaque Petr Hůl, son épouse Anna Shabatova et son beau-père Jaroslav Shabata, les trois étant très actifs au sein du mouvement de la Charte 77. Petr Hůl, 69 ans, a passé au total 9 ans dans les prisons communistes. Après la chute du régime, il a continué à s'engager dans la vie politique et publique. Petr Hůl et Anna Shabatova ont assisté, aux côtés de Václav Havel ou du prêtre Václav Mali, à la rencontre des opposants tchèques et polonais dans les Monts des Géants. Comment ces rencontres secrètes étaient-elles organisées, Petr Hůl ?
La bureaucratie soviétique, et bien sûr celle de Prague, de Varsovie, de Budapest, et ainsi de suite, a fait tout pour nous diviser, pour que le développement contestataire ou de protestation, etc., ne soit pas harmonisé, ne soit pas coordonné. Et c'est pourquoi nous étions fermés dans nos pays, déjà de la Tchécoslovaquie, mais surtout de la Pologne et de la Hongrie, les oppositionnels, ou plutôt les gens qui étaient indépendants, pouvaient plus facilement sortir à l'ouest que dans les pays voisins. Et c'est pourquoi nous avons fait tout pour nous rencontrer, par exemple, à la frontière, dans les montagnes. On a envoyé les envoyés spéciaux, si je peux le dire comme ça, qui avaient les passeports ou la possibilité de partir. Et nous avons fait tout pour coordonner nos activités.
Et je voudrais savoir comment ça s'est passé techniquement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de portable. Oui. Vous étiez suivi par la police secrète. Comment vous êtes arrivé à rester en contact, à organiser ces rencontres, comme oui. Par exemple à la montagne?
C'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, bien sûr. Il a fallu envoyer quelqu'un en Pologne. Nous avons eu des contacts avec les Polonais qui vivaient à Prague et qui sont allés chez eux, et ils ont fixé, disons, ils ont parlé avec nos amis polonais, par exemple à Wrocław. Wrocław, c'est Breslau, Breslau, Bratislava en tchèque. C'est une grande ville, 500 000 d'habitants en Silésie, et de là-bas on a fixé les dates, les lieux, etc. Les Polonais, nos amis polonais, ont eu parmi eux aussi les guides de montagne, par exemple, des monts, des géants, et qui l'ont préparé.
Peut-on distinguer les différences entre les mouvements d'opposition anticommuniste dans les trois pays en question, Ruth Zilberman?
Déjà, c'est une distinction numérique. C'est-à-dire que, évidemment, en plus, c'était vraiment dans des contextes politiques malgré tout un petit peu différents. Mais enfin, ce qui est flagrant, c'est bien entendu qu'en Pologne, ça a eu une ampleur. Il y a eu une vraie création d'une Pologne parallèle, ce qui n'a jamais été le cas ni en Hongrie, ni surtout en Tchécoslovaquie, où vraiment la question numérique de la dissidence, c'est-à-dire la dissidence, c'était un... Alors on lui a reproché d'être un ghetto d'intellectuels de 200 personnes. Donc c'est sûr qu'elle n'a jamais été en lien avec la société civile comme ça a pu l'être, en Pologne. Par ailleurs, en Pologne, c'était évidemment aussi soutenu par une opposition naturelle qui était l'opposition catholique. Voilà, ça je pense que c'est la grande distinction entre une opposition qui a des ramifications dans la société civile de façon extrêmement profonde et une dissidence qu'on a pu qualifier de ghetto et qui reste finalement cloîtrée à quelques centaines d'intellectuels. Voilà. Mais donc ça, c'est à mon avis la principale distinction. Sinon, j'ai quand même le sentiment que... Enfin, c'est pas simplement mon sentiment, d'ailleurs, mais que, comme je vous le disais au début, il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien intellectuel entre ces trois dissidences, entre Michnik, Havel et Arasti. Il y a polonais, tchécoslovaque et hongrois. Il y a un vrai lien. Il y a les mêmes types de références qui peuvent circuler d'un pays à l'autre.
Vous avez tourné à Prague, à Budapest, à Varsovie. Est-ce que l'ambiance lors du tournage a changé d'un pays à l'autre ?
Oui, c'était différent. C'est-à-dire que moi, j'étais différente. Parce que, par exemple, Prague, je connaissais mieux. J'étais déjà venue. Je connaissais bien la République tchèque. Donc, évidemment, je m'attendais plus à un certain nombre de choses, alors que la Pologne, j'étais jamais allée avant. Et c'est vrai que ça a été pour moi des rencontres très, très fortes, très émotionnelles. Et puis, je pense aussi que, puis il y a peut-être, mais enfin, ça, c'est des généralisations, mais il y a peut-être des caractères nationaux. J'ai eu l'impression qu'en Pologne, les choses étaient peut-être un petit peu plus vivantes, alors qu'à Prague, bon, il y a quelque chose de plus calme dans l'évocation de cette histoire. J'ai été frappée, c'est vrai que ça a été particulièrement intense en Pologne pour moi. Les rencontres ont été très fortes, très intenses, parce que j'ai l'impression que peut-être est-ce lié au fait qu'en Pologne, malgré tout, le mouvement de la dissidence a été ensuite relayé par un mouvement beaucoup plus populaire, incarné par Solidarność. Mais par exemple, la première fois que je suis arrivée en Pologne pour des repérages, c'était le jour de l'enterrement de Bronisław Geremek qui venait de mourir dans un accident de voiture. C'était le jour de ses funérailles. J'ai rencontré à cette occasion une ou deux personnes qui interviennent dans le film. Et c'est vrai que tout était presque à l'état. Voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement à vif, d'extrêmement émotionnel de cette histoire. Voilà, j'ai l'impression qu'en République tchèque, il y a quelque chose peut-être de plus... C'est peut-être plus relégué dans les couloirs du passé qu'en Pologne.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité. Et n'oubliez donc pas, demain, vendredi, l'émission spéciale qui sera consacrée aux funérailles et au dernier adieu à Václav Havel. À bientôt, à Rouille.